environ une dizaine d'années parce qu'on a réfléchi justement ces derniers temps en équipe, mais c'est à peu près il y a une dizaine d'années qu'on a commencé à recevoir des appels concernant des joueurs qui nous racontaient se sentir très emprisonnés dans un jeu, n'arrivant pas à s'arrêter par eux-mêmes et qui nous demandaient de l'aide. Ils nous disaient, voilà, moi je me sens vraiment aliénée, j'ai l'impression d'avoir perdu ma liberté avec ce jeu, mais ce jeu, c'est pas un jeu d'argent et de hasard, parce que peut-être que vous le savez, il existe aussi des difficultés, des maladies, des pathologies qui peuvent être déclenchées par les jeux d'argent et de hasard. Vous connaissez les jeux d'argent et de hasard, j'imagine ? Non ? Le poker, le loto, le PMU, voilà, sont autant de jeux d'argent et de hasard. Sauf que là, ces joueurs qui nous ont appelés au début des années 2000, ils nous disaient, moi je suis pas accro à un jeu d'argent et de hasard, ce dont je suis accro, c'est un jeu vidéo. Est-ce que vous acceptez de me recevoir ? Et c'est ce qu'on a fait. C'est comme ça qu'on a commencé à recevoir quelques joueurs de jeux vidéo à Marmottan, donc un lieu qui était historiquement dédié aux personnes toxicomanes dépendantes donc de produits, généralement de drogue. Voilà, donc c'est un vaste sujet. Et d'abord, je voulais parler avec vous un petit peu de cet outil fabuleux que vous connaissez certainement même mieux que moi, pour lequel vous êtes même plus familier, parce que vous êtes des natifs d'Internet, c'est-à-dire vous êtes nés et Internet était déjà là, ce qui vous donne une certaine longueur d'avance sur les adultes que nous sommes et qui ne sommes pas nés avec Internet. Et je voulais avec vous essayer de définir quelles étaient les caractéristiques de cet outil, qu'est-ce qu'il pouvait nous apporter, qu'est-ce qu'il avait comme spécificité. Alors en fait, ce que nous permet Internet, là, pardon, hop, je vais tout mettre d'un coup parce que, voilà, je ne suis pas très douée pour cet outil PowerPoint qu'on appelle. Voilà, je voulais reprendre un petit peu avec vous qu'est-ce que ça nous apporte Internet et essayer de comprendre, enfin ce matin en tous les cas, ensemble, essayer de comprendre ce que ça peut induire comme difficulté, comme comportement qu'on dira pathologique, comme comportement addictif dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Alors les trois caractéristiques majeures de la communication avec Internet, parce que Internet c'est ce qu'on appelle un outil de la technologie de l'information et de la communication, qu'est-ce que ça permet comme forme de communication Internet? Cette communication on peut la caractériser avec trois qualités. La première c'est l'interactivité. Ça veut dire que quand je suis devant mon écran d'ordinateur, je suis actif. C'est pas exactement la même posture que je peux avoir face à mon écran de télévision où j'ai plutôt une position passive, c'est-à-dire que j'assimile les images, les idées, mais j'ai pas forcément d'action propre moi face à cet écran qui est l'écran de la télévision. Et l'écran de la télévision qui est évidemment l'ancêtre de l'écran d'Internet et des ordinateurs. Et avant cet écran-là, il y en avait eu un autre seulement qui est apparu au début du XXe siècle et c'est l'écran du cinéma. Mais les images, somme toute, l'usage des écrans dans nos sociétés, elle est relativement neuve. Ça fait pas très longtemps qu'on se met assis face à un écran et qu'on regarde des images défiler. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Donc avec l'ordinateur, la première spécificité, c'est que c'est interactif. C'est que je vais pouvoir donner mon avis. C'est que je vais pouvoir décider pour une partie, en tous les cas, de l'action qui va se passer dans mon moment d'échange. La deuxième spécificité, c'est l'ubiquité. Alors l'ubiquité, c'était jusqu'alors pour moi comme un don. C'est presque magique l'ubiquité, c'est cette capacité, cette possibilité qu'on pourrait avoir d'être dans deux espaces à la fois. Et Internet nous donne l'impression d'être dans deux espaces à la fois. Quand je communique avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, quand par exemple je m'engage dans une partie enflammée de Counter-Strike avec quelqu'un qui habite en Australie, ça fait tout de suite marrer, ça marche. Avec quelqu'un qui serait en Australie, à ce moment-là, quand je suis dans mon temps de jeu, je suis à la fois en France devant mon ordinateur dans ma petite chambre peut-être, ou dans mon cybercafé, et à la fois parce que je suis en contact avec quelqu'un qui est en Australie, ben à la fois je suis un peu en Australie en train de mener ce duel, ce combat avec cet autre joueur de Counter-Strike. Donc ce que nous donne comme spécificité dans la communication Internet, c'est cette impression d'être dans deux endroits à la fois, et ça c'est inédit, c'est même extraordinaire, c'est la première fois qu'on peut faire ça dans l'humanité. Et puis le troisième élément, c'est un élément qui est très tendance, très mode actuellement, c'est l'instantanéité. C'est avec Internet, la communication qui se développe, c'est par exemple pas ce qui se passe quand j'envoie une lettre, où c'est pas instantané puisqu'il va y avoir ce temps où le facteur va prendre ma lettre, l'emmener jusqu'à ma boîte aux lettres et enfin je vais lire la lettre et je vais avoir connaissance des informations qu'on m'aura envoyées. Donc ça met du temps, ça met 3-4 jours par exemple, si le facteur n'est pas très rapide. Mais avec Internet, c'est quelques secondes. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, j'envoie un mail et en quelques secondes, la personne a reçu le message. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle l'a lu, mais en tous les cas, elle a déjà le message en main. Hein, l'instantanéité, c'est cette rapidité dans laquelle toute la société, tous ensemble, nous sommes entrés dans une société qui va toujours plus vite. On s'en rend pas tout à fait compte parce qu'on est pris un peu dans ce mouvement, mais on va beaucoup plus vite à faire certaines actions, notamment à communiquer, qu'il y a encore quelques temps. Alors globalement, toutes ces qualités, ce qu'elles me rappellent, moi en tous les cas, c'est, et ce qu'elles ont permis comme développement surtout, c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Mais ça, je pense que vous êtes beaucoup plus familier, beaucoup plus doué que moi sur ce type de domaine et qu'ils vous appartiennent plus encore. Quelques mots quand même sur ces réseaux sociaux type Facebook, Twitter, etc. Enfin, je mets tout un peu dans le même panier. Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein. Quelques mots un petit peu quand même sur ces réseaux sociaux, c'est qu'ils permettent de développer une toute nouvelle communication les uns avec les autres. Ils nous permettent d'être mis en contact différemment par rapport à auparavant. Notamment ce qu'on aime bien maintenant d'ailleurs dans ce genre de réseaux sociaux comme Facebook, c'est par exemple faire circuler ses images, c'est faire circuler des photos de soi. Ça permet aussi de se présenter différemment, pas uniquement avec des mots. On se présente aussi en images aux uns et aux autres. Alors, cet outil Internet, ce qu'il nous promet, quelque part, c'est l'illimité. Et oui, quand on a effacé les distances, comme le permet Internet, quand on a effacé aussi le temps, hein, quand je parle d'instantanéité, cette rapidité, ça permet effectivement d'effacer, de modifier en tous les cas notre rapport au temps, et ça permet Internet aussi de modifier notre rapport à l'espace. Et qu'est-ce qu'il nous promet Internet? Eh bien, il nous promet l'illimité. C'est tout est possible, là, maintenant, tout de suite. C'est très séduisant, c'est très attractif. Et je crois qu'on est beaucoup, et les uns et les autres, à passer du temps devant ces écrans parce que c'est très enthousiasmant ce qui est proposé par Internet, d'avoir accès à des contenus comme ça de manière illimitée, de pouvoir discuter avec des gens jusqu'au bout de la nuit, c'est formidable. Mais ça veut dire aussi que c'est à chacun de nous de trouver ses limites, de trouver une certaine autonomie. Alors moi j'aime bien utiliser ce terme d'autonomie, je ne sais pas si vous savez ce qu'il signifie. Autonomie, c'est un mot grec qui veut dire se donner ses propres normes, se donner ses propres limites. Moi j'aime bien ce terme d'autonomie et je le différencie du terme indépendant qu'on emploie aussi beaucoup. Il faut être indépendant, je suppose qu'on l'emploie aussi pour vous, on vous demande d'être indépendant. Moi j'aime moins ce terme d'être indépendant parce que Il induit cette idée ne pas être liés les uns aux autres. Alors qu'en réalité, c'est toute une partie de la thématique de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque moi, mon domaine spécialisé, c'est l'addiction. Et que, à l'origine de l'addiction, il y a cette notion de dépendance. Je préfère utiliser donc ce terme d'autonomie, cette idée de se donner ses propres limites que d'utiliser le terme d'indépendance. Parce que dépendants, donc, nous le sommes tous les uns des autres. On est dépendant de ses parents, on est dépendant de son travail, de son école, de ses petits camarades, on est dépendant de son activité sportive, on peut être aussi dépendant de son chien, de son jeu vidéo, éventuellement, de son ordinateur, etc. Sans que ça ne pose aucun problème, la dépendance est inhérente à la vie, c'est le lien qui fait qu'on est tous attachés les uns aux autres. L'addiction, c'est la forme tyrannique de cette dépendance. C'est lorsque l'une de ces dépendances va prendre le dessus sur toutes les autres formes de dépendance. C'est-à-dire qu'il va y avoir un phénomène, ce qu'on appelle nous un phénomène de centration. Toute l'énergie, tout le temps est investi pour une seule activité par rapport à toutes les autres activités. Dans le cas, par exemple, qui nous intéresse aujourd'hui plus, lié à ce qu'on appelle à la cyberaddiction, l'addiction à Internet, addiction aux jeux vidéo, et ben, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, la personne ne fait que passe tout son temps même derrière un écran. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti, il y a un premier témoignage d'un homme qui doit avoir 45 ans, 50 ans, qui a écrit un livre sur son overdose d'Internet. C'est lui-même qui parle comme ça. Et il raconte comment il s'est lui-même enfermé petit à petit dans des réseaux sociaux, hein, type Facebook, mais lui je pense qu'il était plus sur des réseaux sociaux de forums où il chattait, il échangeait sur un certain nombre de sujets. Et il raconte comment petit à petit il a fait plus que ça, qui rêvait la nuit de ce qu'il devait écrire sur Internet, qu'il était tout le temps en train d'aller vérifier sur son écran si on lui avait pas envoyé un message, etc. Et il en a fait presque un arrêt cardiaque. Ça veut dire qu'il a été tellement loin dans sa consommation d'Internet, d'images, etc., qu'il en a fait un malaise physique. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à l'hôpital quand même, et puis au repos. Et il raconte, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que c'était à la télévision, et il raconte que la première chose qu'il a fait, en se réveillant, dès qu'il a senti qu'il allait un petit peu mieux, installé sur son lit d'hôpital avec des tuyaux partout, etc., la première chose qu'il a fait, vous savez c'est quoi? C'est sortir son smartphone pour tweeter ce qu'il était en train de vivre. Pour expliquer aux gens, voilà, je me retrouve à l'hôpital, j'ai des tuyaux partout, etc. Et là, il s'est dit, il y a un problème quand même. Parce que les médecins lui avaient dit, là, vous avez trop forcé, vous avez fait ce qu'on appelle un burn-out. C'est une expression pour dire un peu, ça serait un peu l'ordinateur qui explose. C'est quand ça lâche là-haut, ça marche plus, on a un burn-out, ça s'arrête. On n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à s'exprimer, on est à l'arrêt. Et ça, c'est quand on a passé trop de temps à faire des choses, intellectuelles notamment, quoi. On fait un burn-out. Donc cette personne, elle a quand même été jusqu'à l'hôpital. Et il raconte d'ailleurs dans son livre comment il s'est arrêté. Pendant 6 mois, il a décidé de faire une rupture totale avec tous les écrans qui l'entouraient. Donc il n'a plus approché un ordinateur, plus un écran de télévision pendant 6 mois, histoire de voir comment est-ce qu'on faisait pour vivre avec... pour vivre sans l'ordinateur, pour vivre sans Internet. Et il en a écrit un livre. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais c'est un premier témoignage de quelqu'un qui s'est retrouvé emprisonné là dans les réseaux sociaux. Donc globalement, l'addiction, mais je vais revenir sur cette notion d'addiction parce que c'est une notion qui est aujourd'hui très utilisée un peu par n'importe qui. On peut être addict à des séries télé, on peut être addict à du chocolat, on peut être addict un peu à tout aujourd'hui, mais moi je vais essayer de vous donner la définition que nous on utilise le plus dans mon domaine. Essayez de vous le définir le plus. Mais gardez en tête cette idée que l'addiction, c'est la perte de liberté de s'abstenir. C'est je voudrais m'empêcher de faire quelque chose, mais je peux pas. Je suis obligée de m'adonner à ce comportement. C'est plutôt une perte de liberté de s'abstenir. Donc, tac. Toujours, donc, je vous disais, pour bien définir cette addiction, les 3 éléments de l'addiction. Le premier élément d'une addiction, c'est le fait que je vais adopter un comportement qui va me procurer du plaisir. Alors, des plaisirs, là, j'ai noté quelques exemples, mais il y en a beaucoup des plaisirs dans la vie. J'espère que vous en connaissez beaucoup et que vous allez en découvrir beaucoup encore Mais le plaisir, ça peut être d'être, de se sentir fort, d'être reconnu par les autres, de se sentir plus libre, d'avoir une place, d'être au-dessus des lois. Le plaisir, il peut se situer dans plein de comportements différents. Donc, ça commence comme ça, l'addiction, en tous les cas, la définition, par l'adoption d'un comportement pour obtenir du plaisir. Et vous avez vu, j'ai rajouté, et ou soulager d'un malaise intérieur. Bah ouais, parce qu'on n'est pas toujours en super forme et que parfois, on peut découvrir des comportements qui vont non seulement nous faire rigoler, mais en même temps, en plus de ça, qui vont atténuer quelque chose que je sens en moi, qui me tord un peu l'estomac, qui fait que je ne suis pas très bien dans mes baskets, etc. Ça, c'est le premier élément. Jusqu'ici, tout va bien. Deuxième élément, je répète ce comportement et apparaissent des conséquences négatives. Concernant, par exemple, les jeux vidéo ou les réseaux sociaux, comme ce monsieur-là, Thierry Crouzet, qui est donc journaliste, qui s'est retrouvé emprisonné dans ces réseaux sociaux. Les conséquences négatives, avec ce genre de comportement, ça va surtout concerner le sommeil. Ben, on dort beaucoup moins. D'ailleurs, depuis que Internet est apparu dans les foyers, globalement, les jeunes gens dorment beaucoup moins qu'avant et passent plus de temps devant l'écran d'Internet. On dort moins. Et quand on ne dort pas, et ben, ça a des conséquences assez importantes sur notre existence. Hein, le fait de ne pas dormir, ça veut dire ne pas rêver non plus, ça veut dire ne pas évacuer un certain nombre de pensées. Et petit à petit, bah, c'est être de moins en moins bien connecté à la réalité. Donc conséquence sur le sommeil, conséquence sur l'alimentation. Typiquement, qu'est-ce qui se passe quand je suis devant mon ordinateur et que j'ai faim? Eh bien, je vais manger, je vais grignoter, je vais plutôt mal manger, en regardant toujours mon écran, et le résultat, c'est que je ne me nourris pas forcément hyper bien et j'arrive dans une consommation, enfin une alimentation un peu mal bouffe, en gros. Mais la conséquence la plus importante, hein, quand on est investi de manière surinvestie, même de manière excessive dans des jeux vidéo ou sur Internet, la conséquence la plus importante, c'est le fait que petit à petit, on se coupe de ses relations avec les autres. Et c'est pas une question, c'est une question presque économique. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, si je passe plus de temps face à mon écran, sur mon jeu vidéo, sur mes réseaux sociaux, etc., eh ben, je n'entretiens pas les relations que j'ai dans mon entourage habituel. Et petit à petit, ben, je délaisse ces relations et j'ai de moins en moins de relations à l'extérieur. En fait. C'est pour ça que petit à petit, on arrive à un certain isolement social. Bon, maintenant ça peut arriver à peu près avec n'importe quel comportement. Hein. Je peux adopter un comportement qui me fait plaisir, mais qui a tendance à m'isoler. Ça peut arriver avec la lecture aussi. Je peux passer du temps à lire et me rendre compte que petit à petit, je me suis isolée dans mes livres. Et je peux alors, à ce moment-là, décider d'arrêter. C'est-à-dire, je me dis, voilà, je passe trop de temps dans mes livres, donc du coup, je vais en lire un petit peu moins, comme ça, je vais retrouver des relations avec les gens de mon entourage. Et c'est là la troisième caractéristique de l'addiction qui va faire la différence entre un comportement, n'importe lequel comportement, et un comportement addictif. C'est ce qu'on appelle la perte de contrôle. C'est-à-dire qu'au moment où je me rends compte que je passe trop de temps face à mon ordinateur, je me dis, là, il faut que je réduise, parce que là, ça commence à atteindre mon sommeil, ça atteint mon alimentation, et je vois bien que je m'isole, que je vois de moins en moins de gens. Et bien là, à ce moment-là, au moment où j'essaye de passer moins de temps face à mon écran d'ordinateur, j'y arrive pas. J'arrive pas à réduire. J'arrive pas à réguler. Je me dis, bien, je vais passer que 2 heures aujourd'hui, et je dépasse toujours, je déborde tout le temps. J'ai beau me fixer des limites, comme une personne autonome, donc, eh bien, j'y arrive pas à les tenir pour moi-même. C'est à ce moment-là qu'on est dans une addiction. C'est bien quand il y a cette perte de contrôle, quand je suis incapable de réguler le comportement pour moi-même. C'est cette perte de contrôle qui va légitimer, légitimer notre intervention à nous en tant que soignants. C'est parce que les personnes n'arrivent pas à réduire par elles-mêmes un comportement qu'elles viennent nous rencontrer et qu'on discute de cette souffrance de cette difficulté à arrêter ce comportement qui commence à avoir des conséquences négatives. Voilà. C'est ça qui compose une addiction. Il peut pas. Et je crois que ce troisième élément le plus important, c'est vraiment cette notion de perte de contrôle. J'avais décidé quelque chose et paf, ça m'échappe. C'est plus de cela, de l'addiction. Autre question, de quoi peut-on devenir addict? Parce que même si on est ce matin rassemblés pour surtout parler des jeux vidéo, etc., mais on peut en parler, on peut parler aussi des autres produits ou des autres substances qui peuvent mener à l'addiction. Je crois que c'est pas du luxe d'en parler. Ah oui, là, pardon, je m'excuse, voilà. De quoi peut-on devenir addict? Alors il y a un auteur américain, il s'appelle Stanton Pease. Dans les années 70, il travaillait sur l'amour, hein, sur la relation amoureuse. Et ce qu'il a remarqué, c'est que la relation affective, la relation amoureuse, ça fonctionne, ou plutôt l'addiction, ça fonctionne comme la relation amoureuse. Il a remarqué que d'abord et avant tout, quand on devient dépendant, accro, eh bien, c'est d'abord à une expérience. C'est pas seulement un comportement. C'est pas seulement un produit. Je donne un exemple. Je vais essayer de donner un exemple. Non, c'est à une expérience tout entière. Par exemple, la première fois parmi les premières fois où j'ai consommé de l'alcool, c'était dans une fête. Il y avait beaucoup de monde. Ça m'a fait très plaisir de boire. Le fait de boire, ça m'a permis de mieux communiquer avec les autres. Je trouvais que c'était plus facile. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, tiens, j'ai bien aimé cette expérience tout entière. C'est-à-dire, j'ai bien aimé boire de l'alcool, mais j'ai bien aimé boire de l'alcool parce que c'était la fête, parce qu'il y avait de la musique avec, parce qu'il y avait tout un contexte, parce qu'il y avait des gens, etc. Donc, quand on tombe dépendant, c'est pas tomber d'ailleurs, mais on est accro plutôt à une expérience. Il n'y a pas un seul signe, il y a plusieurs choses qui vont m'intéresser dans la même scène. Pas uniquement l'alcool, c'est le fait qu'il y ait les autres, c'est le fait que ce soit la fête, que ce soit facile pour moi de les rencontrer. Hein, donc c'est une expérience tout entière. Et cette expérience, on peut l'obtenir, tout de suite, à partir de produits, de substances ayant certaines caractéristiques. Donc le plus souvent, ces substances, ce sont les drogues, mais il y en a aussi des substances légales que sont l'alcool et le tabac. Alors certaines drogues vont entraîner une dépendance physique. Est-ce que vous connaissez les drogues qui entraînent, enfin les substances qui entraînent une dépendance physique, c'est-à-dire une dépendance dans laquelle le corps va réclamer la substance? Vous avez une idée? Le hashish n'entraîne pas de dépendance physique. Raté. Hop, il y en a trois. Il y a trois substances qui entraînent une dépendance physique. J'ai pas entendu. L'héroïne, les opiacés. Alors l'héroïne fait partie d'une grande famille qu'on appelle les opiacés, l'opium. Hein, c'est une fleur à la base qui pousse loin, loin, loin en Asie. Donc dans cette famille des opiacés, on a l'héroïne et l'héroïne on va même dire que la dépendance physique aux opiacés, c'est une dépendance extrêmement dure, extrêmement intense. Quand les gens se sèvrent, c'est-à-dire arrêtent de consommer de l'héroïne, ils sont dans un état physique extrêmement difficile à vivre. Ils ont généralement des chauds-froids qui leur parcourent le corps, ils ont envie de vomir toutes les 5 minutes, ils ont les muscles qui se tendent de manière trop importante, ils sont vraiment très mal. Et ils sont mal physiquement, ils sont aussi mal dans la tête. Ça passe par des moments d'angoisse massifs, des moments de déprime très forts. C'est un moment très, très difficile à vivre, le sevrage, parce que justement, le corps est en manque et il réclame. Et la manière dont réclame le corps, c'est une manière très forte, très, très importante et très douloureuse pour la personne. Ça, c'est le premier, en effet, c'est la première famille de substances qui induisent une dépendance physique. Vous avez une idée pour les deux autres substances? La nicotine. Le tabac, oui, tout à fait. La nicotine. Alors ça, c'est un exemple de dépendance sans défonce, ce qu'on appelle la dépendance sans défonce, parce que la cigarette, très rapidement, on fume les premières cigarettes. Alors les premières cigarettes, elles peuvent donner un peu le tournis, hein, ou la première cigarette le matin, elle va avoir un petit effet comme ça, etc. Mais ça ne va pas aller plus loin. Très rapidement, on fume sans comprendre pourquoi on fume. On prend des cigarettes sans savoir pourquoi on prend des cigarettes. C'est pas forcément une dépendance qui a du sens. Même, je dirais, c'est une dépendance qui perd vite de son sens. Il n'y a pas réellement de défense. On n'obtient pas d'effet comme on peut obtenir, par exemple, avec l'alcool. L'effet de l'alcool, on le sent de manière plus importante dans le corps que l'effet de la cigarette. Et pourtant, ça accroche énormément, le tabac. Il y a beaucoup de gens, et on le sait aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous encourage à ne pas commencer, mais c'est beaucoup plus difficile d'en décrocher que de ne pas commencer. Très difficile de décrocher du tabac. C'est une substance qui s'immisce, qui s'introduit dans beaucoup de nos petits gestes et dont on a du mal à prendre de la distance avec. Bon, c'était le tabac. Et le troisième produit qui induit une dépendance physique, ça veut dire que le corps va réclamer, c'est l'alcool. C'est l'alcool, oui. Alors, l'alcool, d'ailleurs, c'est une dépendance physique qu'on repère assez rapidement, Les gens qui boivent régulièrement, très régulièrement, ils ont besoin de boire dès le matin. Leur corps le réclame après la nuit, parce que sinon, ils sont pas bien. Ils sont pas bien physiquement, on observe des tremblements, on observe des sueurs, voilà, un état où on n'est pas bien et il faut reprendre de l'alcool pour faire en sorte que, bon, ça y est, le corps, il peut y aller. Vous avez bien compris, je pense, enfin, vous l'entendez peut-être, que quand on est dans l'addiction, on n'est plus dans le plaisir, on est dans le besoin. Il faut obligatoirement que je consomme. C'est plus le même plaisir qu'au départ. Le plaisir qui a pu exister au départ avec la substance, il diminue, très peu, c'est plus le besoin. Et puis il y a d'autres drogues qui n'entraînent pas forcément une dépendance physique, c'est-à-dire où le corps réclame, mais qui entraînent une dépendance psychique. Et je vous dirais, toutes les drogues et tous les comportements addictifs entraînent une très forte dépendance psychique, dont il est difficile de se séparer. La dépendance psychique, ça va être, je suis dans mon supermarché, en train de conduire mon caddie, en train de faire mes courses bêtement, et petit à petit, j'ai une idée, par exemple, j'ai l'idée d'aller jouer à des jeux d'argent. Bientôt, ça va être le départ de tel cours, ça me donne envie de jouer, et l'idée s'installe dans ma tête, et elle ne me lâche plus. C'est une idée qui va m'obnubiler. Ça va être comme une obsession dans ma tête, jusqu'à ce que j'aille faire cet acte. C'est-à-dire jusqu'à ce que j'aille jouer. Et une fois de plus, c'est pas moi qui décide. C'est comme un besoin. Et puis il y a des comportements. Ben voilà, j'en parlais. Donc non seulement il y a des produits et des substances, mais ce qu'on a un peu découvert avec le temps, parce qu'au départ on s'occupait surtout des toxicomanes, donc des gens qui étaient dépendants d'une substance, ce qu'on a un peu découvert avec le temps, c'est qu'on pouvait avoir les mêmes mécanismes d'addiction avec des comportements comme les jeux de hasard et d'argent, les jeux vidéo, le sport, les achats, la nourriture, plein de nos comportements du quotidien peuvent devenir des objets d'addiction. Alors, concernant les jeux vidéo, une vignette un peu plus, enfin une diapora un peu plus longue là pour essayer de distinguer un peu les différents types de jeux vidéo en ligne qui existent. Et ceux pour lesquels, moi, j'ai vu des jeunes gens, généralement, je vous le cache pas, c'est des garçons, j'ai vu des jeunes gens qui se sont présentés donc au centre médical où je travaille et qui m'ont dit, voilà, moi, je suis en difficulté, j'arrive pas à me sortir de ce jeu. Le type de jeu le plus connu, c'est ce qu'on appelle les MMORPG, vous connaissez? Non. Attendez. C'est pas moi, non. World of Warcraft, vous connaissez? Voilà. World of Warcraft, c'est typiquement un jeu de cette catégorie qu'on appelle les MMORPG. MMORPG, ça signifie, donc je vous le fais en anglais, Massively Multiplayer Online Role Playing Game, ce qui signifie jeu de rôle Jeu de rôle en ligne, massivement multijoueur, ça signifie qu'il y a au moins 185 joueurs qui peuvent jouer à ce jeu en même temps. Au moins 185 joueurs. C'est pour vous donner une idée du nombre de participants, c'est gigantesque. Et sur certains serveurs de World of Warcraft, qui est donc le jeu le plus connu dans cette catégorie, vous avez des serveurs qui vont rassembler des milliers de personnes. Ça veut dire qu'il peut y avoir des milliers de joueurs qui sont connectés ensemble et qui participent ensemble à un jeu vidéo. Évidemment, cette prouesse-là, elle est possible que grâce à la technologie d'Internet. S'il n'y avait pas Internet, on ne pourrait pas faire ça. Donc, c'est des jeux de rôle. Donc, des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, voilà. Vous en connaissez peut-être, Dofus. Dofus, vous connaissez? Un petit peu, c'est un univers un peu enfantin et des personnages un peu... Dark Age of Camelot, non? Ah, voilà. Alors, les trois caractéristiques, qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de joueurs de jeux vidéo qui viennent me voir concernant ce type de jeux vidéo? Donc, ils viennent me raconter qu'ils sont emprisonnés dans un jeu. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent plus pour ce genre de jeu-là? Ben, ce type de jeu, les MMORPG, ils ont trois caractéristiques. Tout marche par trois avec moi. Trois caractéristiques qu'il faut qu'ils soient particulièrement accrocheurs. Il y a le fait d'abord qu'on incarne un avatar, un personnage, qui va avoir un certain nombre de pouvoirs, dont je vais pouvoir d'ailleurs. Moi, en tant que joueur, je vais pouvoir choisir un certain nombre de ces caractéristiques. Donc, je vais peut-être pouvoir me construire un personnage qui va me ressembler, ou plutôt un personnage qui sera comme un surhomme, un idéal de moi peut-être. Un personnage qui aura, en plus de certaines de mes caractéristiques, des caractéristiques que je souhaiterais moi avoir, mais bien sûr que je ne peux pas avoir dans la réalité physique et matérielle. Un personnage par exemple qui volerait, un personnage qui pourrait se transformer en animal, etc. Donc d'abord j'ai ce personnage qui me représente et qui a des caractéristiques propres et auxquelles je vais beaucoup m'attacher. Je vais beaucoup m'attacher à ce personnage parce que il va évoluer. Et il va passer comme ça un certain nombre de niveaux dans ce beau monde de Warcraft, par exemple. Dans World of Warcraft, vous avez 85 niveaux. Donc votre personnage, il part de zéro et il faut l'emmener à ce niveau 85. Et pour progresser, évidemment, il faut être plutôt habile. Plus vous êtes habile, plus vous allez vite, évidemment. Mais c'est pas l'habilité qui est la première des qualités. Si vous voulez progresser dans ce genre de jeu, il suffit d'y passer du temps. Parce que somme toute, si jamais j'échoue dans une de mes missions, je peux recommencer juste après. Et je peux recommencer jusqu'à ce que je réussisse. Donc il faut surtout passer du temps pour passer des niveaux. Et les jeunes gens, moi, que je reçois, ils m'expliquent, ils me disent, moi, j'ai pas commencé à jouer à World of Warcraft pour jouer 8 heures par jour à ce jeu. J'ai commencé comme n'importe quel jeu vidéo, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que si je voulais être performant, si je voulais être bon sur ce jeu, il fallait que j'y passe du temps. Et au minimum, d'ailleurs, une séquence de jeu, une session de jeu à World of Warcraft, c'est pas une demi-heure comme je pourrais jouer à Mario Kart une demi-heure. C'est 3 heures pour pouvoir s'immerger dans ce monde, pour pouvoir savoir ce que je vais y faire. Donc ça prend du temps, globalement. Ensuite, le deuxième élément qui fait que c'est assez accrocheur, c'est qu'on est immergé dans des univers spécifiques. Ce sont des univers infinis. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'objectif à un jeu comme World of Warcraft qui est sorti en février 2005. Donc nous sommes quasiment en février 2012. Ça fait 7 ans que ce jeu existe et il n'est pas fini. Mais il n'y a pas de fin de prévu. Il n'y a pas de happy end. Ce qui se passe même, c'est que les constructeurs, les développeurs du jeu ont tendance même à à prolonger l'attrait pour le jeu. C'est dans leur intérêt parce que c'est un jeu qui est payant. C'est un jeu qui est payant à la base et puis on va payer chaque mois un abonnement pour pouvoir participer à ce jeu. Donc eux, ils ont tout intérêt à vous garder devant l'écran. Et ça, c'est la même politique pour tous les développeurs de jeux vidéo. Moi, j'en ai croisé un la semaine dernière. de la boîte Koboyo, qui est une boîte française qui produit des jeux vidéo, ils ont une politique de rétention devant l'écran. Vous parliez tout à l'heure de captation. Ben, ils font pareil, hein, ils gardent les joueurs de jeux vidéo devant l'écran, c'est ce qu'ils veulent, quoi. Donc c'est des univers qui sont infinis, et donc régulièrement, les éditeurs vont sortir des extensions, des add-ons pour renouveler un petit peu l'intérêt du jeu. Parce que moi j'ai des joueurs de jeux vidéo, ils y sont depuis février 2005, ils ont fait toutes les aventures avec tous les personnages possibles, et limite ils s'ennuieraient sur leur jeu si on leur reproposerait pas des nouvelles aventures. C'est ce qui se passe, histoire de prolonger les jeux. Ils sont persistants, ça veut dire que le jeu se développe sur lui-même. Ça veut dire que quand je ne suis pas dans le jeu, il s'y passe quand même des choses. C'est pas comme dans un jeu traditionnel où si jamais je quitte la table, le jeu va s'arrêter au moment où ça sera à mon tour de jouer. Là, ça joue même quand je n'y suis pas. Il se passe des choses. Que font mes ennemis? Que font mes amis? Je peux m'interroger et ça peut créer un sentiment de préoccupation. C'est des univers qui sont permanents, c'est ouvert 24 heures sur 24. Hein. Il n'y a pas de problème. Et puis c'est des univers qui sont magiques, enchantés, etc. Enfin, qui ont beaucoup de qualités. Enfin, le troisième élément qui rend particulièrement accrocheur ce type de jeu, c'est les relations entre joueurs. On vous incite à vous regrouper dans ce qu'on appelle des guildes. Hein, des regroupements. Alors c'est suivant les jeux, hein. Dans World of Warcraft on appelle ça des guildes, dans d'autres jeux on appelle ça des clans, etc. En tous les cas, on vous incite à vous regrouper pour pouvoir élaborer des stratégies, et c'est plus intéressant souvent d'élaborer des stratégies à plusieurs, bien sûr, pour massacrer des monstres toujours plus forts, et ça crée une interdépendance entre les joueurs. Ça veut dire, si je me suis engagée à être présent vendredi soir pour effectuer une mission, une quête, eh ben je ne peux pas y échapper, même si on propose une autre sortie par ailleurs. Du coup, je vais peut-être un peu hésiter. Et si je ne vais pas à la mission où on m'attend, c'est un peu comme le match de foot, quoi. Il va manquer un joueur. Donc ça va être embêtant pour le reste de l'équipe. Hein, du coup, ça crée une sorte d'interdépendance entre les joueurs. Donc ces jeux-là, particulièrement, moi j'ai rencontré des joueurs de jeux vidéo qui avaient passé des 5-6 ans. Hein, leur univers, c'était leur univers de Warcraft avec leurs personnages. Ils n'avaient plus du tout de contact avec d'autres personnes, uniquement des joueurs de leurs jeux vidéo. Alors il y a d'autres types de jeux. Et je commence par ceux tout en bas, que vous connaissez sans doute. J'en ai cité un tout à l'heure, Counter-Strike. Donc toute la série des FPS, les first person shooters, les Doom-like, etc. Donc c'est tous ces jeux où on doit tirer sur un maximum de personnages virtuels, hein, d'adversaires, mais bien sûr ce sont des pixels, que je rassure les adultes, ce ne sont que des pixels, mais le jeu, vous savez, c'est ces jeux en trois dimensions, où on a l'impression qu'on a le bras qui est prolongé dans l'écran. Vous voyez, non? Non, vous ne jouez pas à ce genre de jeu? Ah si. Ah pardon. Call of Duty? Ouais. Voilà, donc c'est des jeux qui ont gagné d'ailleurs, hein, parce qu'au départ c'est des jeux qui relèvent plus du réflexe que de la réflexion, hein. C'est des jeux de rapidité où il faut se concentrer et être le plus rapide à tirer. Maintenant, grâce au fait qu'on puisse se mettre en réseau, ça fait des jeux de stratégie un peu plus intéressants. Il y a quelques joueurs qui sont venus parce qu'ils étaient très investis dans ce genre de jeu, hein, mais très généralement, bon, ça posait moins de soucis. Et ce que me déclarent souvent les joueurs, même qui viennent donc pour plutôt des MMORPG, ce qu'ils me déclarent, c'est qu'ils ont une grosse période de jeu dans ce type de jeu-là, les Call of Duty, etc. Et puis il y a une autre sorte de jeu qui est sortie, qui ressemble beaucoup au MMORPG, qui s'appelle les MOBA. Vous connaissez? Non? Ça ne me dit rien? Bon, bah d'accord, je passe. Alors, League of Legends, qui a l'air d'être un phénomène actuel auquel jouent pas mal de gens. Oui? Oui? Oui, vous confirmez? Voilà. Voilà, qui est un autre genre de jeu, et on commence à recevoir des joueurs qui se sont un peu trop investis dans ce type de jeu. Je disais tout à l'heure que ces jeux-là, les FPS finalement, certainement qui posaient moins problème que cela. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles il pose moins problème que les MMORPG, c'est le temps. C'est vraiment cette notion d'infini. Hein, puisque avec des jeux comme les FPS, à un moment donné, quand on a perdu, bon, bah, la partie s'arrête. Alors, du coup, ça permet aux joueurs de prendre un peu de recul et de se dire, est-ce que j'ai encore envie de me faire une partie suivante ? Ça permet de se laisser le temps de se poser la question, ce qui n'est pas le cas avec les MMORPG, vous avez toujours quelque chose à faire. C'est histoire de ne pas vous poser de questions. Alors, juste pour information, World of Warcraft, qui est un jeu, donc un succès planétaire, puisqu'il y a plus de 10 millions de joueurs dans le monde, c'est tenu par une boîte qui s'appelle Vivendi Universal. Donc, c'est quand même une grosse succursale qui produit beaucoup d'objets culturels. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup. Autre question, mais comment peut-on devenir addict ? Parce que c'est pas donné à n'importe qui non plus, quand même. D'abord, ça commence par une rencontre. Alors, qui a souvent lieu à l'adolescence, cette rencontre. Pourquoi ça a lieu à l'adolescence ? Parce que, somme toute, jusqu'à un certain âge, on est, en tant qu'enfant, totalement sous la dépendance de ses parents. C'est-à-dire que nos parents vont décider la plupart de nos actes, à quelle heure on va manger et qu'est-ce qu'on va manger aussi, d'ailleurs, et si on peut regarder la télé, et si, etc. Donc, jusqu'à un certain âge, comme ça, les parents décident de tout, à peu près. Voilà, grosso modo. Et puis, quand on arrive quand on entre dans cette période qu'on appelle aujourd'hui l'adolescence, mais qui commence par la puberté, c'est-à-dire par toute cette métamorphose du corps, etc., on entre dans un autre temps qui est différent de celui de l'enfance, vous l'avez remarqué, où on va pouvoir de plus en plus prendre ses propres décisions. On va décider pour soi. Je vais décider que finalement, j'aime plus la glace au chocolat, je préfère la glace à la vanille. Enfin, ça va se décliner, alors ça c'est un exemple un peu bateau, mais ça va se décliner comme ça un petit peu sur plein de plans. La musique, par exemple. Et avant, j'écoutais la musique de mes parents, et puis à un moment donné, ça commence généralement à l'adolescence, je commence à me dire, ben non, cette musique-là, là, qu'ils écoutent, moi, le rock, ça m'intéresse pas, moi je préfère tel genre de musique, hop, et je commence à choisir moi-même mes musiques. Et puis, je choisis moi-même d'ailleurs mes films aussi, parce que je préfère un certain type de film, et puis je choisis aussi moi-même mes jeux vidéo, je choisis moi-même mes copains, je choisis, tiens, de fumer un joint, hop, parce que bon, le copain, il avait un joint aussi, et pourquoi pas, je choisis pour moi. Je suis en train de tester mes limites, je ne connais pas, et alors j'essaye. Et j'essaye plein de choses comme ça à l'adolescence. C'est normal, je suis en train de me construire, et la caractéristique même de l'adolescence, c'est qu'il n'a pas trop de limites. Il est en train de les chercher, les construire. Donc très généralement, parfois, il peut pousser le bouchon un peu loin. C'est comme ça qu'on assiste à un phénomène qui est un peu émergent, mais un phénomène qui était déjà présent, qui sont les phénomènes de biture express. C'est-à-dire boire un maximum d'alcool en un minimum de temps. C'est une idée, ça. Ah oui, c'est une idée. Le résultat, évidemment, c'est que ça fait une grosse défonce, parce que ceux qui ont un peu plus l'habitude de boire de l'alcool vous diront il vaut mieux boire petit à petit l'alcool, modérément, parce que sinon, très rapidement, on est un peu... on est un peu bourré et puis on suit moins bien la conversation, on sent moins bien. Mais quand on est un adolescent, on trouve ça beaucoup plus marrant de se dire « Mais alors, qu'est-ce que ça va me faire si je bois ce dosage d'alcool très très vite ?» Et on teste. Et parfois, ça finit par un coma éthylique. Ah oui, parce que le corps aussi a ses limites. Alors, des fois, il surdose hein, un petit peu et c'est pour ça qu'il a tendance à vous dire adieu dans ces cas-là, le corps. C'est trop pour lui. Mais bon, il y a toute cette période donc d'adolescence où je vais faire plein d'essais, et généralement des essais un peu excessifs, et puis parce que souvent, je suis contente de le faire par moi-même, et heureusement qu'on fait les choses par soi-même, et parfois ben, je me plante, et parfois je fais des rencontres. Enfin, la vie est faite de rencontres, hein, mais à l'adolescence, c'est les premières rencontres. Voilà. Alors évidemment, sur fond de questionnements existentiels, sur fond de grands changements physiologiques, psychiques et sociaux. Parce qu'à l'adolescence, il y a deux grands enjeux qui vont se dégager. C'est d'une part, c'est se construire, il y a un enjeu en fait professionnel, c'est se construire soi-même, sa place, etc. Et puis, il y a un enjeu qui est plus lié à la sexualité, c'est que on devient des individus qui vont pouvoir se mettre en couple, qui vont pouvoir avoir des relations sexuelles, pouvoir se mettre en couple et faire des enfants. Et ça, c'est un des autres enjeux, parce qu'il y a à faire avec ces nouvelles données. Il y a beaucoup de boulot, l'adolescence, c'est une période très riche. Et il y a beaucoup de travail et il y a des rencontres. Alors généralement, une fois de plus, ça commence par une rencontre. On rencontre le produit ou le comportement, souvent à un moment donné où on se pose beaucoup de questions. On se demande ce qu'on va faire dans sa vie, qui on est, d'où on vient, ce qu'on appelle les questions existentielles. Et puis on peut se dire, avec ce comportement, par exemple avec les jeux vidéo, moi qui étais super timide, etc., avec les jeux vidéo, j'ai réussi à entrer en lien avec des gens sans me sentir gênée, sans me sentir mal à l'aise, et j'ai commencé à tricoter comme ça des relations, et franchement, je me sens mieux dans ce monde des jeux vidéo que dans la réalité physique et matérielle. Ça améliore ma vie. Moi, j'ai le sentiment que ma vie, elle va mieux. Et c'est comme ça que s'installe progressivement le comportement. Au départ, de toute façon, ce comportement, il est plus vécu comme une solution. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'alcool de tout à l'heure, l'alcool, j'ai bien vite vu qu'il y avait des effets positifs, c'est-à-dire que quand j'en bois, je me sens moins inhibée et j'ai plus de facilité à parler aux autres. Et moi qui étais très timide, par exemple, je me suis rendu compte de cet effet-là et j'utilise l'alcool pour me permettre de discuter avec les autres. Mais l'alcool aussi a des caractéristiques qui fait que j'ai besoin d'en boire petit à petit tous les jours. Donc ça s'installe progressivement, généralement, ce comportement. Et puis le temps. Et le temps, c'est une donnée très très importante dans ces histoires d'addiction, parce que c'est sûr que c'est pas la même chose de décrocher de 20 ans de consommation d'alcool que de 2 ans. C'est pas pareil de décrocher de 3 ans de jeux vidéo par rapport à 15 ans d'héroïne. C'est pas la même chose. Le temps est une donnée très importante. Plus le temps passe, plus le comportement va s'installer, plus ça va être difficile de s'en séparer. Alors il y a tout un débat en ce moment sur est-ce que ça existe véritablement l'addiction aux jeux vidéo ? Et on n'est pas d'accord. Alors il y a des experts qui disent les jeux vidéo ça n'existe pas, etc. Il y en a d'autres qui, comme moi, constatent que quand même il y a un maximum de... Enfin, qu'il y a des gens qui sont quand même en difficulté avec ces nouvelles technologies. Alors je dirais pas que tous ces gens sont forcément dans une addiction, mais ce que je constate, moi, c'est qu'il y a beaucoup de situations d'abus, c'est-à-dire de situations où on n'est pas dans la dépendance, on n'est pas forcément dans l'addiction, c'est pas un problème qui mérite de venir se poser à l'hôpital Marmottan, mais quand même, ça serait bien si je régulais un petit peu mon temps passé devant l'écran, si je consacrais peut-être un peu plus de temps à d'autres activités à l'extérieur. Et puis, en conclusion, se décoller de l'écran de temps en temps, c'est pas mal, ça permet de réfléchir aussi à ce qu'on est en train de faire dans ces écrans, à ce qu'on est en train de dire, parce que parfois on dit des choses en se disant « là je suis seule dans ma chambre, je vais écrire quelque chose que je pourrais pas dire d'ailleurs en public » et puis finalement sur internet, si c'est du public, c'est ce que vous y notez. Et donc c'est prendre du recul, ça permet de s'interroger, de savoir qu'on a envie de raconter sur Internet ou pas, ou ce qu'on a envie d'être ou pas sur Internet. Alors s'il est dommage de ne pas se servir d'Internet, ça serait vraiment dommage, il est dangereux de ne se servir que d'Internet, je crois qu'il faut faire un peu varier les modes de relation, les modes de mise en contact avec les autres. On en a plusieurs, il faut changer, il faut les faire varier. Et puis l'addiction, c'est grave, réellement. C'est pas marrant, les carrières de toxicomanes ou les carrières de grands addicts, c'est des gens qui ont des vies difficiles, douloureuses. Mais on peut s'en sortir avec de l'aide et donc ne pas hésiter à en demander le plus tôt possible. D'ailleurs, peut-être que vous le savez, il existe des consultations jeunes consommateurs qui ont été mises en place depuis quelques années en France. Il y en a certainement dans votre région. Ces consultations jeunes consommateurs, elles sont gratuites, anonymes, elles sont volontaires, vous vous y rendez si vous en avez envie, et vous pouvez vous y rendre pour juste poser une question sur ce qui vous arrive, simplement vous informer, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être complètement dépendant d'un produit pour vous y rendre, même aller se poser, discuter un peu de ce qui a pu se passer. Je ne sais pas, on peut tout imaginer que durant le week-end, vous avez essayé une drogue de synthèse comme l'ecstasy et que ça vous a fait bizarre, et bien vous avez le droit de venir en parler avec des professionnels. Voilà, et c'est d'autant mieux. Voilà. Et je crois que j'ai terminé et que c'est à vous de me poser des questions. Voilà. Hop. Il y en a un filaire.